Catherine Le Matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. À 9h20, je vous souhaite un excellent début de journée. On vous accompagne jusqu'à 10h, je vous le rappelle. Notre prochaine invitée a dévoilé son rapport hier. Elle est vérificatrice générale. Plusieurs aspects inquiétants là-dedans, des choses qu'il faut absolument aborder avec elle, notamment les renseignements personnels qui sont en péril à la RAMQ et à Retraite Québec. Et là, hier, je l'écoutais, je me disais, ah, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs, ce qu'on a vécu avec Desjardins. Guylaine Leclerc est là. Bonjour, Mme Leclerc.
Bonjour, Mme Gaudreau.
Madame Leclerc, de ce que j'ai compris, donc ce que vous dites dans ce rapport, c'est que les systèmes informatiques de la Régie de l'assurance maladie et de Retraite Québec sont, vous l'avez dit, des zones à risque en termes de confidentialité.
Effectivement, nous avons fait cet audit parce que, comme vous le savez, nous auditons plus de 200 états financiers au vérificateur général dans les organismes du gouvernement. Et pour plusieurs d'entre elles, plusieurs de nos recommandations étaient liées à la gestion des identités des accès. Alors, lorsqu'on parle de gestion des identités des accès, ben c'est comme, par exemple, les mots de passe. Ce sont des activités qui sont faites à l'intérieur de l'organisation. Et pour près de 30 % de toutes les recommandations qu'on faisait relativement à des... au système informatique, mais 30 % était lié à une problématique liée aux accès et à l'identité. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet audit auprès de deux organismes qui ont beaucoup d'informations personnelles et confidentielles, de manière à ce que les autres entités puissent utiliser nos constats et nos recommandations pour pouvoir les appliquer dans leur propres organisations. Alors, effectivement, ce qu'on a constaté, on a plusieurs constats. Alors, dans un premier temps, c'est un constat qui est lié au personnel qui ont des accès privilégiés. Il faut savoir qu'à l'intérieur de chacune des organisations, du personnel qui a des accès privilégiés, c'est généralement des administrateurs de réseau, par exemple. Mm-hmm. Alors, ces gens-là ont beaucoup de pouvoir à l'intérieur de l'organisation. Ils peuvent aller à l'intérieur de plusieurs comptes, ils peuvent télécharger des données. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des contrôles qui étaient déficients, ce qui était lié strictement au personnel qui avait ce genre d'accès-là. Et, par exemple, le genre de contrôles qui sont déficients, ben, par exemple, c'est la revue de façon régulière des mots de passe, le fait que des transactions de, par exemple, de téléchargement pouvaient ne pas être journalisées. Et lorsqu'elles étaient journalisées, bien, il n'y avait pas de suivi qui était fait. Des téléchargements qui pouvaient ne pas avoir à être autorisés par un supérieur. Alors, c'est le genre de constat qu'on a fait pour ce qui est du personnel avec des accès privilégiés. Mais on a aussi travaillé au niveau de l'ensemble du personnel. Et il faut savoir que au niveau de l'ensemble du personnel, bien, il y a plusieurs constats qu'on a identifiés, donc des problématiques liées à à l'identification des séparations de tâches, la révision, la revue des accès, le processus de révocation des accès. Et à cet effet-là, au niveau du processus de révocation des accès, bien, on a fait un échantillonnage de plusieurs départs, donc des départs de personnel, des gens qui pouvaient être partis pour maladie suite à un congédiement ou qui avaient quitté pour un sans-somme, par exemple. Et ce qu'on a constaté, c'est dans 40 % des cas, bien, le processus de révocation des accès n'avait eu lieu qu'après plus de 10 jours après le départ de l'employé. Alors, ce sont des constats qui sont préoccupants, mais ce que je dois dire immédiatement, c'est que dans les deux entités, on n'a pas identifié d'activités frauduleuses ou d'erreurs majeures et que ces deux entités-là prennent vraiment à cœur ces constats et ces recommandations. Et il y en a plusieurs qui ont déjà été mises en place et il y en a d'autres qui continuent à être mis en place. Alors, je tenais à faire cette mise au point.
Oui, absolument, parce que vous m'avez un petit peu devancé, c'était ma question, à savoir, bon, est-ce que vous avez décelé des cas de fraude? Non, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a des gens proactifs. Déjà, on est en mode essayer de faire mieux puis de mieux encadrer là, les choses. Est-ce que je le dis bien?
Effectivement, il faut comprendre que le risque zéro n'existe pas. Hein. Alors, même si on met en place toutes les recommandations, qu'on met en place tous les contrôles, à partir du moment où il y a collusion, qu'il y a Puis aussi, les fraudeurs sont à l'affût. Hein. Alors, oui. Le risque zéro n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est comme si on fait une analogie avec une maison, ben, c'est de s'assurer que toutes les fenêtres sont barrées, les portes sont barrées quand on vit. Quand on quitte la maison.
L'image est très forte, Mme Leclerc. Hier, j'entendais la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est notre députée de Champlain également. Je sais qu'elle va déposer son projet de loi bientôt là, sur l'encadrement des renseignements personnels. Ça, pour vous, c'est nécessaire? Il faut aller là?
Bien, écoutez, ça, c'est un choix du législateur. Donc, le choix de faire une loi par rapport à une autre, c'est le choix du législateur. Nous, ce que nous commentons toujours, c'est une fois que la loi est appliquée, l'est-elle adéquatement et puis l'est-elle faite de façon efficace et efficiente?
OK. Madame Leclerc, je veux qu'on parle un petit peu de patrimoine, parce que ça aussi, ça m'a interpellée hier. De ce qu'on comprenait, là, de ce qu'on retrouve dans votre rapport, la politique de protection du patrimoine au Québec, là, elle est problématique. Ce que vous dites en tout et partout, est-ce qu'on protège très mal notre patrimoine? On n'a pas ce qu'il faut, on fait pas ce qu'il faut?
C'est exactement ça. Alors, c'est un rapport qui est très sévère à l'endroit du ministère. Le ministère, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas de stratégie qui pourrait aider à l'adhésion collective. Parce que le patrimoine, juste le définir, pour nous, on avait un groupe d'experts qui travaillaient avec nous et chacun avait sa propre définition. Donc, c'est important que le ministère ait sa une stratégie, une vision qui va faire en sorte qu'il va avoir l'adhésion des partenaires qu'il a. Parce qu'il faut comprendre qu'il a plusieurs partenaires, entre autres les municipalités, les citoyens qui détiennent aussi de ce type d'immeuble et l'ensemble de la population. Donc, s'il veut avoir l'adhésion collective et s'assurer que ses partenaires pose les bons gestes, mais c'est important qu'il fasse connaître sa stratégie, premièrement qu'il y en ait une, et deuxièmement qu'il la fasse connaître, qu'il les accompagne aussi. Et ce qu'on a constaté, c'est que le ministère n'était pas proactif, bien au contraire, il était réactif, il attendait qu'il y ait des propositions avant de faire quelque geste que ce soit.
Parce que vous dites, Mme Leclerc, que le manque de leadership, ça favorise une pratique appelée la démolition par abandon. Alors donc, puis ça nous a déjà été raconté en nombre par des gens, des propriétaires d'immeubles patrimoniaux, les laissent se dégrader jusqu'à temps que ça devienne insalubre. Puis là, ben par la suite, ben on dit, ben là, on n'a pas le choix, faut détruire. C'est un peu ça que vous nous dites, là.
Effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que sur un groupe de dossiers qu'on a regardé, 40% entre le moment où on fait une proposition pour sauvegarder le bien et le moment où il y a un avis d'intention, donc au moment où on va avoir des procédures de protection, dans 40% des cas, ça prenait plus de 5 ans, dans 20%, plus de 10 ans. Puis on a même identifié des cas que ça prenait plus de 20 ans. Alors, on comprend qu'entre le moment où on fait une proposition au ministère et le moment où il y a des mesures de protection, bien, le bien a le temps de dépérir et de perdre tous ses intérêts patrimoniaux. Et il faut comprendre aussi que les municipalités, bien, la majorité de leurs revenus, ça vient de la taxation. Alors, il faut informer adéquatement les municipalités pour leur dire, écoutez, là, le patrimoine, ça a une rentabilité, ça aussi. Ne serait-ce qu'au niveau touristique, ça a une rentabilité au niveau économique aussi. Et si on veut léguer à nos générations futures, bien, les biens de notre patrimoine, mais c'est important de pouvoir de s'assurer qu'on le préserve. Et les municipalités sont un partenaire très, très important parce qu'en vertu de la loi qui a été modifiée en 2012, le ministère a fait le choix de transférer une grande partie du pouvoir d'identifier les biens patrimoniaux et de les protéger aux municipalités. Mais avec ces pouvoirs-là, ben, il aurait fallu qu'il les accompagne, ce qu'il n'a pas fait, qu'il leur offre un support, soit de formation, d'information, d'accompagnement, d'encadrement, ce qu'il n'a pas fait.
En terminant, Mme Leclerc, je ne peux pas vous laisser partir sans parler un petit peu du ministère des Transports. Vous dites que ça manque de rigueur dans les estimations. Une fois sur deux, le ministère des Transports sous-estime ou surévalue la valeur de ces contrats. Ça, concrètement, ça veut dire des dépassements de coûts, évidemment.
Bien, effectivement, ce sont des dépassements de coûts. Faut comprendre que ce rapport-là fait suite à un rapport qu'on avait fait en 2017 qui nous avait été demandé par le secrétariat du Conseil du Trésor, où nous avions eu plusieurs recommandations relativement à la gestion contractuelle. Alors, trois ans plus tard, on a décidé de faire un suivi et effectivement, dans ce cas-là, on a identifié que les il y avait peu d'avancées, je vous dirais, peu d'améliorations en ce qui regarde les écarts dans les estimations, donc soit sous-estimation et surestimation. Ce qui est aussi préoccupant, c'est que dans le tiers des cas, c'est dû à la condition du marché, bon, parce qu'il n'y a pas suffisamment de compétition, mais dans les deux tiers des cas, c'est parce que principalement dû à un manque de rigueur. Alors ça, c'est très, très préoccupant.
Absolument. En tout et partout, c'est 44 % des 5277 contrats de construction et de services professionnels et techniques qui ont été mal évalués. C'est le constat que vous avez fait.
Effectivement.
Madame Leclerc, merci beaucoup pour d'avoir décortiqué ça avec nous ce matin.
Ça nous fait plaisir. Au revoir.
Merci. Au revoir. La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc.